L'interview de Didier Van Kovelaert. Dona Vidal-Revel.
Didier Van Kovelaert, nous nous trouvons dans un vaste studio de Radio France où vous avez passé une journée entière pour lire pratiquement d'une traite votre livre. Il y a d'ailleurs de nombreuses bouteilles d'eau sur cette table ronde.
Beaucoup de cadavres, oui.
Que ressentez-vous après avoir lu, après avoir vécu votre texte à haute voix?
Alors, il faut dire d'abord que tout le temps de l'écriture, je relis à voix haute. J'ai besoin d'avoir le retour son de mes phrases. J'ai besoin de sentir si le tempo est bon, si l'émotion qui circule entre les mots est celle que je voulais, si la musique correspond. Et tant que je n'ai pas la musique que je souhaite, je change les mots, je recommence. C'est très important pour moi. Donc cet exercice n'est pas nouveau. Mes phrases ont l'habitude d'être lues à voix haute. En revanche, c'est la première fois que je le fais pour enregistrer, donc je le fais en destiné à un public, et puis je le fais dans la foulée. C'est toujours sinon des relectures à haute voix critiques, et ça n'est pas une sorte de spectacle oral. Mais donc ça m'a ramené complètement des mois en arrière, dans les moments où j'écrivais ce livre. Et c'est assez magique parce qu'une journée, on a passé, je sais pas, de 9h jusqu'à 19h30. Et j'ai l'impression que tous les mois d'écriture que m'a demandé ce livre ont été concentrés dans cette journée. Donc il y a eu à la fois je suis retourné en arrière et puis il y a eu un espace-temps gigantesque qui a contenu toute l'écriture de ce livre. Et c'est assez émouvant parce qu'évidemment, toutes les émotions que je ressentais en l'imaginant, en l'écrivant, en le travaillant, sont revenues en se bousculant un peu parfois. Et puis la vie des personnages, leur situation aussi, tout ça se bousculait beaucoup, ça faisait du monde quoi, devant ce micro.
On vous sent un peu sonné, un peu hagard.
Ah oui, c'est un peu hagard, mais content, quoi. Mais c'est vrai qu'il y a un côté boxeur en sortie de ring, là. Parce que, en plus, c'était à un moment donné de la journée, je me suis rendu compte, en fait, à la pause déjeuner, que j'avais fait presque la moitié du livre et que donc il n'était pas exclu de penser qu'on pouvait faire le livre en une journée, alors qu'on avait prévu deux jours et demi. Et c'est vrai que j'ai eu envie de cela. J'ai eu envie justement de que toute la journée soit la vie concentrée de tous ces mois d'écriture. Et puis j'ai été complètement habité par tous ces personnages à qui j'essayais de donner une vie dans le noir, si je puis dire. C'est-à-dire que ma voix essaie de faire ressentir le maximum de choses qu'il y a en eux. Les révoltes, les émotions, les jubilations, les détresses. Et évidemment, je suis un peu habité par tout ça, quoi. Donc un petit peu sonné.
Est-ce que vous avez découvert quelque chose au cours de cette journée, de votre propre texte ?
J'ai découvert quand même que la voix a un pouvoir... un pouvoir incroyable parce qu'il y a des modulations, par exemple, que j'ai faites pour cet enregistrement que je ne fais pas du tout lorsque je lance mes phrases à voix haute. Notamment le fait souvent de terminer en l'air une phrase pour ne pas retomber dans les bottes, que ce ne soit pas monotone. J'ai pensé beaucoup au lecteur. C'est vrai que j'ai pensé énormément à ceux qui allaient entendre cela. Quand je lis mes phrases à voix haute pendant l'écriture, je pense à mes lecteurs. Je ne pense pas à la manière dont on entend le livre.
Il y a des soupirs, il y a des sourires dans votre voix, des silences, des respirations, en plus du texte. Et on a vraiment l'impression d'un récit en trois dimensions. Est-ce que vous ressentez ça ?
C'est vrai que ce n'est pas uniquement de la ponctuation sonore. C'est vraiment le personnage en moi qui avait besoin de parler de cette manière. Je me suis d'ailleurs surpris par moments, pour certains personnages, à faire des voix. Comme on dit, d'autres fois, je lisais avec ma voix normale, avec juste des modulations, des tempos différents. Mais parfois, un personnage avait vraiment besoin de faire entendre sa voix. Comme lorsque j'écris, souvent, je vois le personnage et j'entends comme il parle. Je m'appuie sur des traits caractéristiques de sa personne. Et bien là, comme j'avais à donner à voir ces traits caractéristiques, c'est vrai que par moments, la voix du personnage s'est emparée de moi. Je ne m'étais pas du tout préparé à cette lecture. La seule chose que j'avais faite hier soir, c'est reprendre la première page. Et de manière à voir si j'étais ou pas dans le ton à choisir un petit peu. Et puis la dernière, c'est toujours très important dans mes livres pour moi, la première, la dernière page, c'est vraiment très capital. Donc là, j'avais besoin d'essayer un peu le son et ensuite j'ai fait confiance au texte, à l'intuition, au climat de cette journée qui a apporté, je pense, beaucoup de choses.
Vous étiez très excité à l'idée de lire vous-même votre texte. Vous avez dit tout de suite oui, banco.
Oui, parce que quand on m'a proposé ça, je trouve que c'est un beau cadeau à faire aux lecteurs qui ne voient pas. C'est leur restituer l'intimité que normalement le lecteur a en découvrant dans le silence les mots tels qu'ils sont écrits et en les entendant résonner en lui. Le fait de donner ma voix à mes mots et mes personnages, alors bien sûr qu'un lecteur professionnel aurait certainement lu mieux que moi, mais les vibrations, les modulations sont exactement celles qui m'habitaient au moment où j'ai construit ces phrases. Donc je pense que, évidemment, pour les non-voyants qui vont entendre ce texte, comme fatalement leur sens auditif est beaucoup plus développé que le nôtre, je pense que ça va leur restituer des tas de choses qu'il y a même en dessous mon écriture et à l'intérieur de ces personnages. Voilà, c'est vrai, j'ai eu envie de donner cela. Et puis, égoïstement aussi, c'est vrai que passer une journée comme ça à habiter son livre en accéléré, c'est assez jouissif.
Qui aurait pu enregistrer votre livre à votre place ?
Il y a beaucoup de comédiens et je connais, qui sont même des amis, qui auraient pu faire une très belle lecture. Je me rappelle un jour... c'est Didier Flamand qui avait fait une très belle lecture d'un de mes textes. Arditi, Dussolier, gens qui ont une voix qui me touche en tant que comédien, en tant qu'être humain. Il y en a beaucoup.
On revient juste un instant sur votre livre. Martine Harris existe ou pas ?
Oui, maintenant oui. Je crois profondément que les personnages de fiction, lorsqu'on les a inventés, ils existent. Ils passent. Déjà, ils existent pour ceux qui viennent d'entendre, pour ceux qui ont lu le livre. Déjà, ce personnage, ils s'y sont intéressés. Ils l'ont construit d'après les matériaux que je donne et parfois aussi d'après les matériaux qui viennent du lecteur ou de l'auditeur. Tout à coup, parfois, les gens font... Je parle d'une femme et ils vont, dans une histoire d'amour, ils vont mettre en surimpression la femme à laquelle ils pensent, ou l'homme. Et c'est très bien. Il faut toujours garder quelque chose d'ouvert dans les descriptions de personnages. Ne pas de manière à ce que le lecteur puisse s'inviter avec son imaginaire et son vécu à l'intérieur de mes histoires.
Autre cadeau peut-être pour les non-voyants qui ne vous ont donc jamais vu. Est-ce que vous pouvez vous décrire ?
Oui, si vous voulez. J'aurais envie de leur dire, imaginez moi, à la suite de ce livre, essayez de déduire mon apparence, de mon style, de ma façon d'écrire. Faites-moi ce cadeau-là. Ce que j'écris ne ressemble pas forcément à la tête que j'ai. Et j'aimerais avoir des visages très différents, aussi différents que les différents personnages que je mets dans ce livre-là. Sinon, bon, maintenant, si vous voulez absolument une description, j'ai les cheveux blonds, je suis plutôt grand, j'ai les yeux bleus, j'ai des sourcils assez fournis qui se rapprochent et des rides au coin des yeux qui sont des rides que j'aime bien, très précoces. Là, maintenant, elles sont normales vu mon âge, mais je les ai eues depuis très longtemps, c'est des rides de sourire et de soleil. Et je suis plus ou moins rasé, souvent moins. Jamais je ne me rase le matin avant d'écrire, par exemple. C'est comme les joueurs de tennis. Il ne faut jamais se raser avant un match, c'est une perte d'énergie.
Alors, autre facette de votre personnalité, Jean d'Ormesson, qui est lui aussi le parrain de l'association, nous a dit « Didier Van Kovelaert, formidable, mais il faut que vous le fassiez chanter ».
Alors, c'est une vieille histoire entre Jean d'Ormesson et moi. C'est qu'un jour, Jean d'Ormesson, une quinzaine d'années, je pense, m'a invité à un grand échiquier de Jacques Chancel qui lui était consacré. Je ne sais plus comment on en est venu à parler musique, à parler opéra, à parler Offenbach et Verdi. Et Jean d'Ormesson avait entendu que, au prix Nimier que l'on m'avait donné, j'avais chanté après, à la fin du repas, comme ça, comme on chante à la fin des repas. Donc là, il m'a piégé en me disant « Vous allez voir, vous allez entendre comme il chante ». Et donc, comme je n'aime pas me dérober, j'avais chanté. Mais...
Alors ça donne quoi, en chantonnant?
Mais là, je n'ai plus du tout la voix après une journée d'enregistrement pour faire de l'opéra ou quoi que ce soit. Donc...
Un petit air.
Brassens, par exemple, c'est quelqu'un qui me donne énormément de vitamines quand je le chante. Le fantôme de Brassens. C'était troublant, c'était tremblant. C'était vêtu d'un drap tout blanc. Ça présentait tous les symptômes, tous les dehors de la vision, les faux airs de l'apparition. En un mot, c'était un fantôme. À sa manière d'avancer, à sa façon de balancer les hanches quelque peu convexes, je compris que j'avais affaire à quelqu'un du genre que je préfère, à un fantôme du beau sexe.
Vous êtes heureux, Didier Van Kovelaert ?
Quand je chante, oui. Je pense que le chant est la meilleure anti-stress possible. C'est connu, les médecins vous disent que ça provoque ça stimule les échanges dans l'organisme, mais c'est vrai qu'il n'y a pas un coup de cafard ou une nostalgie profonde qui résiste à une chanson tonique. Ça peut revenir après, mais tout ça s'apprivoise. Le bonheur n'a jamais été un but dans ma vie. Le bonheur comme fin ne m'intéresse pas. La joie, oui, la joie, c'est une force motrice. Puis la joie n'empêche pas d'être ponctuellement heureux. Mais c'est comme le vin. J'adore le bon vin, j'adore les grands vins, mais j'en boirai pas tous les jours, à tous les repas. De manière à l'apprécier quand ça se produit. Le bonheur, c'est pareil. Et puis il y a quelque chose de dangereux dans le bonheur, c'est que c'est un état auquel on arrive et qu'ensuite on a peur de perdre. Les gens ont peur tout à coup qu'une chose s'arrête, de ne plus être heureux, d'être... Et comme je n'aime pas la peur, j'ai la chance de ne pas connaître la peur, je préfère la joie qui est cette force motrice et cet état d'esprit qui ressuscite beaucoup plus facilement qu'un bonheur brisé.
Merci Didier Van Kovelaert, merci d'avoir répondu tout de suite présent pour lire dans le noir et merci d'avoir lu entièrement donc ce texte avec autant d'enthousiasme et de professionnalisme.
Ouais, et merci de m'avoir offert cette expérience qui est un surcroît de vie, je crois, pour ce roman et pour mes personnages et une manière de toucher directement des lecteurs qui n'ont pas accès aux mots écrits.
Lire dans le noir.